Jean-Michel Hougourlian, vous êtes neuropsychiatre et psychologue, ancien professeur de psychopathologie clinique à l'université. Vous publiez un livre au titre absolument suggestif, absolument évident, « Jeunesse du désir » chez Carnet Nord. Et donc, dans ce livre, vous proposez, vous avez, je voulais le préciser également, beaucoup travaillé avec René Girard. Il en sera beaucoup question au cours de notre entretien, bien entendu. Vous avez publié avec lui et Guy Lefort un ouvrage que nous avons tous en mémoire, intitulé « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Et puis ensuite, mais sous votre propre signature, donc un mime nommé désir, où vous tentez donc déjà cette forme de phénoménologie ou de clinique du désir. Dans ce livre, vous proposez une théorie du désir comme relation, comme interaction, et comme le terrain de nombreuses pathologies. On va en voir quelques-unes, ça va de la psychose à l'anorexie, et tout, en passant par toutes sortes de troubles psychiques. Donc, cette conception du désir, vous la construisez, Jean-Michel Hougourlian, comme une application de la théorie de la rivalité mimétique, la théorie de René Girard, mais une application qui ne se situe pas dans le champ de l'anthropologie ou de l'histoire, comme c'est le cas chez René Girard, ou encore du sentiment religieux, mais qui est appliquée ici au vaste domaine du psychisme, dans une perspective thérapeutique d'ailleurs, nous y viendrons, notamment dans l'élément justement des relations amoureuses et du couple, où on pressent, à vous lire, on devine bien, on devine tout de suite l'efficacité potentielle de cette nouvelle théorie. Alors peut-être commençons par cette description du désir, description phénoménologique du désir que vous faites. Alors vous commencez d'ailleurs par une série de portraits, c'est très concret.
C'est ça. Je commence par donner comme ça une idée, si vous voulez, de cette réalité clinique. Parce qu'au fond, quand nous avons commencé à travailler avec René Girard, bien sûr, sur le désir mimétique au départ, je me suis demandé comment, en clinique, repérer, mettre en évidence le désir mimétique. Et je me suis aperçu que c'était impossible. Parce que personne, bien entendu, ne va reconnaître l'altérité de son désir. Personne ne va reconnaître que son désir est copié sur celui d'un autre. Mmh. Personne. Et je suis arrivé à la conclusion, après de nombreuses années de réflexion et d'observation, que l'expression clinique du désir mimétique, c'est la rivalité. C'est-à-dire que personne ne va vous dire « j'ai copié mon désir sur celui d'un autre », mais tout le monde va vous dire qu'il a un rival quelque part, qu'il est en conflit avec quelqu'un, et que finalement son problème ne se situe pas en lui-même, ni dans l'autre en tant que tel, mais entre les deux.
C'est ça.
Il a un problème avec quelqu'un. Alors ce quelqu'un peut être, de manière, comment dirais-je, privilégié bien sûr, le conjoint. Qui est, le conjoint, bien entendu, ça peut être un homme et une femme, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, peu importe, un couple. Mais ça peut être aussi un conflit qui l'oppose à son supérieur, ou à son subordonné,
ou à son père, ou à sa mère,
ou à sa mère, ou à sa sœur, ou à son frère, ou à son collègue de bureau, ou à sa secrétaire, ou à n'importe qui, finalement, avec lequel il a une relation qui, petit à petit, se rapproche, et en se rapprochant, se conflictualise d'une certaine manière. Et alors, l'exemple, comment dirais-je, métaphorique, allégorique, historique, que j'ai pris, c'est un texte de la Torah, enfin un texte de
la Genèse.
La Genèse, oui. Le troisième.
L'histoire d'Adam et Ève.
Voilà, le troisième chapitre de la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette histoire, Dieu se dit, mais cet homme est tout seul, c'est quand même triste. Et donc, il lui crée une compagne. Et il lui fait un cadeau. Et chacun de nous peut faire l'expérience brusquement de l'amour qui est un cadeau. Ça nous vient comme ça, ça tombe du ciel, c'est un cadeau que nous découvrons. Et là où nous commençons à, comment dirais-je, à prendre des risques, c'est lorsque nous voulons absolument que ce cadeau qui nous a été offert, donné par le destin, nous voulons à toute force et volontairement le pérenniser. Alors ça donne des « tu ne me quitteras jamais, je ne te quitterai jamais, nous allons rester ensemble ». Alors et puis chaque fois on demande à l'autre des serments, qui sont à l'évidence ridicules, parce qu'en fait, le cadeau, c'est un cadeau. Et c'est ce qui se passe au paradis terrestre, d'ailleurs, puisque Adam et Ève sont donc l'un à l'autre, Et c'est ce qui se passe dans tous les couples. Quand ils se découvrent mutuellement, ils sont au paradis. Mmh. Et ils sont seuls au monde. Exactement comme Adam et Ève. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, au paradis comme ailleurs, le serpent, qui est à mes yeux l'allégorie du désir mimétique, vient s'insinuer entre Ève et Dieu sur le mode de la rivalité. C'est-à-dire qu'il lui présente Dieu comme un rival en disant « Attention, si Dieu se réserve cet arbre, c'est qu'à l'évidence, cet arbre lui donne une supériorité par rapport à vous. Donc, il faut à tout prix que vous l'ayez, cet arbre. Sinon, vous n'êtes rien du tout par rapport à lui. Et pourquoi vous en prive-t-il, d'ailleurs? Ce n'est pas juste. S'il vous en prive, c'est que vous y avez droit. C'est un peu syndicaliste comme attitude du serpent. Mais c'est la vérité. Et elle tombe dans le panneau, bien entendu, comme nous tombons tous dans ce panneau, qui est le panneau du désir mimétique qui se transforme en rivalité mimétique. Et elle mange du fruit pour bien manifester qu'elle veut s'approprier cet avoir qui, en fait, n'est que transitif vers l'être de Dieu qu'elle cherche à s'approprier, l'être même de Dieu. Et à ce moment-là, bien sûr, elle donne à Adam un peu de cet arbre à manger également, et aussitôt, tous les deux s'aperçoivent qu'ils ne sont plus comme ils étaient. Ils ne sont plus unis dans une espèce de béatitude paradisiaque.
Ils se découvrent nus.
Ils se découvrent nus. Cette nudité témoigne justement d'une rivalité qui commence à s'insinuer, c'est-à-dire une différence qui commence à se percevoir entre eux. Et cette différence risque de les séparer. C'est pour ça qu'ils la cachent. C'est amusant. Ils cachent cette différence qui risque de les séparer, car ils pressentent qu'elle va les séparer, et ça continue. Et finalement, dans tous les couples, ça commence comme ça, et puis ça se termine exactement par l'entrée dans le monde que nous connaissons, qui est le monde où il y a autant de modèles que de rivaux, autant de rivaux que de modèles.
Voilà, on va peut-être entrer, parce que on voit bien, Jean-Michel Augourlian, ce que peut donner donc ce désir mimétique, cette envie, cette jalousie, dans des phénomènes collectifs, comme la mode, par exemple.
Tout à fait.
Mais on voit moins dans un couple. Alors, vous faites de ce désir mimétique le mouvement psychologique par excellence, donc l'interaction entre deux êtres. C'est vrai qu'on voit moins clairement on va le voir avec vous, c'est très clair dans votre livre, mais a priori, comme ça.
Voilà, alors je vais vous dire.
Ce que ça peut donner dans le cadre d'une relation.
Voilà, alors j'ai imaginé, si vous voulez, de distinguer, parce que finalement, la rivalité mimétique dans un couple, ça s'appelle la jalousie, bien sûr. Et la jalousie, j'ai constaté cliniquement, et j'ai essayé de formaliser ça, sur un mode un peu plaisant, un peu mathématique, disant qu'il y a la jalousie du tiers et la jalousie de la moitié dans un couple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La jalousie du tiers, c'est lorsque le mari découvre, enfin le mari ou l'amant, peu importe, découvre que sa compagne a un amant, donc il y a un troisième personnage, jalousie par rapport à un tiers, et nous voyons là que le mari manifeste de la jalousie par rapport à sa femme, ou l'amant par rapport à sa maîtresse, ou l'inverse.
Mais c'est
Mais qu'est-ce que c'est que cette jalousie? C'est une rivalité par rapport au troisième homme.
C'est un désir mimétique, oui.
C'est un désir mimétique, puisque... Et ce désir mimétique, à quel point il est mimétique? C'est que lorsque je vois que j'ai un rival, j'imite son désir qui se porte sur ma femme, et par conséquent, ça enflamme le mien, ça exacerbe le mien. Et c'est comme ça que cette rivalité fait fulminer le désir en passion. Et au fur et à mesure que la jalousie s'exacerbe, le désir devient passion. Et à la limite, la folie guette Othello, qui s'imagine avoir un rival tellement fort qu'il n'arrive pas à mettre la main dessus, et que pour priver ce rival de la possession de sa femme, il la tue, simplement pour l'en priver.
Alors là, tout de même, Jean-Michel Augourlian, vous avez fait intervenir un tiers.
Ah oui, il y a un tiers, c'est-à-dire qu'il y a un tiers ou une tierce personne. Parce que ça peut. Nous avons pris le cas, bien sûr, de la femme qui avait un amant, il peut se faire qu'aussi l'homme est une maîtresse et que ce soit la femme qui soit dans cette situation où la rivalité fulmine, la passion s'exacerbe. Mais en réalité, tout vient du fait qu'elle est dans une situation de rivalité par rapport à sa rivale, comme on dit. Et ça, elle ne l'aperçoit pas. Elle ne l'aperçoit pas.
Ce que je veux dire par là, Jean-Michel Augourlian, c'est que vous avez l'air de faire aussi du désir une réalité mimétique qui fait intervenir donc la rivalité en soi à l'intérieur même du couple. Vous parlez d'une spirale aussi du désir mimétique.
C'est ça. Je pense qu'il s'agit d'un mécanisme dont les deux protagonistes sont les jouets, à la manière, un petit peu, si vous voulez, lorsque nous parlons tous les deux, nous sommes assis, nous sommes évidemment soumis à la gravitation universelle, sinon nous ne serions pas assis, nous serions en train de flotter dans les airs. Mais c'est une chose dont nous ne sommes absolument pas conscients. Nous n'avons pas ça présent à l'esprit constamment. Et cependant, quelle que soit la conscience que nous en ayons, et Newton lui-même, qui avait découvert la gravitation universelle, lorsqu'il glissait dans sa salle de bain, il se cassait la figure comme tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et alors, donc, nous disions la jalousie du tiers, mais il y a pire. Il y a la jalousie de la moitié. Ça, c'est lorsque la rivalité s'insinue entre les deux amants, entre les deux conjoints, entre les deux partenaires, entre les deux associés, entre les deux, tout ce que vous voudrez. Parce que là, ils se retrouvent, si vous voulez, dans une situation où ils sont jaloux l'un de l'autre. Ils ne supportent pas, par exemple, ça se voit très bien dans les entreprises, lorsqu'un couple travaille dans la même entreprise et que l'un d'entre eux est promu, et pas l'autre. Immédiatement, la relation entre eux s'altère.
Vous pourriez faire l'histoire récente d'une campagne présidentielle.
Par exemple, nous n'allons bien entendu pas nous rendre jamais, mais la campagne présidentielle, est, à mon avis, a été jalonnée des différents épisodes de part et d'autre, d'ailleurs, bien, je dirais, dans la majorité que dans l'opposition, par les conflits de cette nature dont on ne peut pas s'empêcher de penser et qu'il y avait quelque chose de cette nature. Et j'ai figuré cela, comme vous pourrez le voir, par. Vous savez, ces planches de bois qui, dans les jardins publics, servent aux enfants à se balancer. La planche de bois est sur un pivot, et il y a un enfant à chaque côté, Et lorsqu'un enfant à droite monte, l'autre ipso facto descend.
C'est la balançoire.
Et par conséquent, celui qui est en bas, la seule façon qu'il a de monter, c'est de faire descendre l'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc ce jeu devient diabolique lorsqu'un couple se trouve pris sur cette balançoire. Chacun de son côté, à ce moment-là, pour pouvoir monter lui-même, doit absolument faire descendre l'autre. Et il est évidemment plus commode de critiquer l'autre et de le faire descendre que de se monter soi-même.
Voilà. Alors ça, c'est la genèse du désir, mais vous mettez en évidence également dans ce livre Jean-Michel Hougourlian la structure propre du désir. Je note au passage d'ailleurs que pour un psychiatre et professeur de psychopathologie, vous ne citez pas beaucoup Freud, qui a quand même donné un contenu très, très important à cette notion de désir.
Alors, pour Freud, le désir, c'est d'abord essentiellement sexuel, c'est la libido.
Oui.
Et c'est quelque chose qui prend sa source dans l'épaisseur biologique du sujet et qui ensuite, jaillissant de l'épaisseur biologique du sujet, va aller s'investir, comme disent les psychanalystes, sur différents objets. Les objets étant la mère d'abord, etc. Et dans la théorie mimétique, il n'y a pas d'épaisseur biologique, il n'y a pas de mélange des genres. Le désir est un mouvement psychologique dont l'origine est psychologique, puisqu'elle est dans l'autre, c'est l'imitation du désir de l'autre. Il tire son énergie même, non pas de l'épaisseur biologique et de ses neurones et de sa chimie, mais il tire son énergie de sa relation à l'autre. Et il tire également de cette relation à l'autre sa finalité, c'est-à-dire le choix de son objet.
C'est là où c'est mimétique.
Là où il est mimétique.
Ouais.
Il est mimétique parce qu'il imite, il copie le désir de l'autre. Il devient rival, d'où il tire son énergie de cette rivalité, et en même temps, il copie le désir en se portant sur le même objet. Les deux mouvements, d'ailleurs, sont coextensifs l'un de l'autre.
Voilà. Alors, je parlais, Jean-Michel Hougourlian, de la structure du désir, cette forme de solipsisme qu'est le désir pour lui-même, finalement. Un certain nombre de philosophes qui ont mis ça en évidence. Vous citez également Georges Bataille, d'ailleurs, qui montre bien cette ambivalence du désir, qui est à la fois désir constamment inassouvi, parce qu'il n'est de dire que, contrairement au besoin.
Le besoin, une fois qu'il est satisfait,
il disparaît.
Il se transforme en plaisir dans un premier temps, parce que c'est un plaisir, par exemple, quand on a faim, de manger quelque chose de bon.
Le désir est avide de ne jamais être assouvi, disait Georges Bataille.
Mais tout à fait, parce que lorsqu'il est assouvi, il disparaît.
Et alors c'est là, Jean-Michel Hougourlian, qu'il y a le risque d'une spirale, et vous parlez même de la dimension infernal du désir, en parlant de cette situation de couple.
Dans cette situation de couple, il est bien certain que ce désir, si vous voulez, peut devenir infernal lorsqu'il ne trouve pas de solution à cette rivalité, à ce conflit. Et là, ça devient véritablement des couples infernaux. Et ces couples n'arrivent pas à se séparer. J'ai l'habitude de dire à certains de mes patients qu'il est certes difficile de se séparer de son meilleur ami, il est encore plus compliqué et difficile de se séparer de son meilleur ennemi. Et par exemple, prenez un film comme Le Chat de Pierre Garnier de Fer qui vient de mourir. Vous voyez très bien que Gabin et Signoret se détestent tellement qu'ils ne peuvent pas se quitter à l'instant. Parce qu'ils reviennent tout le temps sur le théâtre de leur rivalité, de leur guerre
à maison de banlieue.
Oui, ouais. Et ils ne peuvent pas se départir de cette rivalité. Et tout le travail de la psychothérapie mimétique, entre guillemets, va être d'essayer de déminer, de dégonfler, d'apaiser ces rivalités. Et ce n'est pas chose facile.
Oui. Alors justement, parlons-en si vous voulez, parce que vous commencez le livre, comme je le disais, par une série de portraits en situation, justement, de désir mimétique ou de spirale infernale de ce désir. Et puis alors à la fin, vous montrez comment on peut dénouer, justement, on ne va pas entrer dans chaque cas
particulier, bien sûr.
Voilà.
Mais si vous voulez,
concrètement, comment ça se passe?
Un des principes généraux consiste, par exemple, dans un rapport triangulaire, par exemple, à montrer à la personne jalouse...
Dans le triangle, il y a le thérapeute, c'est ça que vous voulez dire?
Non. Le mari, la femme et l'amant.
D'accord.
Ce que James Joyce appelle « French triangle », un triangle français. Tous les théâtres de boulevard sont construits sur ce mode. Sacha Guitry fait sa fortune là-dessus, si je puis dire. Eh bien, c'est de montrer qu'en réalité, lorsque la femme vous dit « je suis jalouse, je meurs de jalousie, je suis morte d'amour, je n'en peux plus, etc., il me délaisse, pourquoi il m'abandonne, ça », c'est de lui montrer qu'en fait, elle se met au même niveau que sa rivale, et qu'en réalité, son vrai problème est avec la rivale, c'est pas avec le mari. Et à ce moment-là, si vous voulez, cette brusque prise de conscience l'étonne, et l'amène à reconsidérer toute la problématique d'une manière différente. Dans les rivalités qui sont au sein du couple, ce que j'appelle les jalousies de la moitié,
c'est ça.
Les jaloux de sa moitié, comme on dit. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut essayer d'apaiser la colère ou la jalousie que porte un des membres du couple à l'autre, mais dont il ne veut absolument pas convenir. Et cette jalousie prend des formes bizarres. Je prends au hasard un exemple. C'est lorsque, par exemple, ce que j'appelle le syndrome de plus royaliste que le roi, où la femme dit à son mari, qui est... Mais enfin, écoute, je ne comprends pas que tu te laisses traiter comme ça par ton PDG. Moi, à ta place, je lui aurais dit son fait, je lui aurais dit que, etc., etc. Et le mari ne sait plus où se mettre, parce que s'il dit, zut, par ses mots d'expression, à son PDG, il est viré. Et s'il ne le fait pas, il est en conflit, enfin, ou il est en tout cas, il est très bas aux yeux de sa femme. C'est un peu le dilemme d'Adam lorsque Ève lui propose de manger de l'arbre. Il se dit, je vais me faire engueuler dans les deux cas. Et il choisit de se faire engueuler par le patron, c'est-à-dire par Dieu, plutôt que par sa femme. C'est vous dire à quel point c'est redoutable de se faire engueuler par sa femme.
Alors justement, à côté de cette référence donc à la fable ou au mythe de la Genèse et la lecture et la lecture que vous en faites, la leçon que vous en tirez, vous citez également un mythe qui est, de ce point de vue-là, je parle de la relation mimétique à l'intérieur d'un couple de moitié, comme vous
tout
dites.
À fait.
Il y a un mythe que vous citez également, le fameux mythe d'Aristophane dans le Banquet de Platon, qui est encore plus suggestif
dans le Banquet de Platon,
égard.
Absolument.
L'androgyne divisé en deux et la nostalgie de sa moitié.
Absolument.
Et c'est l'envie, ça.
Non, c'est-à-dire que ce qui se passe dans ce mythe platonicien, enfin, qui est raconté par Socrate, réalité, c'est que...
Attribué à Aristophane,
c'est qu'en fait, dans ce banquet de Platon, si vous voulez, il présente la chose de la manière suivante, c'est qu'au départ, tous les êtres vivants étaient androgynes, c'est-à-dire qu'ils étaient collés l'un à l'autre, ils ne faisaient qu'un.
Une description assez drôle d'ailleurs de ces êtres ronds.
Ronds, ayant un côté masculin et un côté féminin. Et puis ils se sont rebellés contre Jupiter, qui, entrant dans une rage folle, a sorti son glaive et les a coupés en deux, pour bien leur apprendre la modestie. Et il leur a ensuite tourné le visage du côté de la blessure.
Et qu'ils passent leur vie à se rechercher l'un l'autre.
Mais évidemment. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand on a trouvé le grand amour, ou en tout cas lorsqu'on a le sentiment de l'avoir trouvé, c'est vrai, qu'on a le sentiment que l'autre vient en quelque sorte s'appliquer sur toutes les cicatrices, sur toutes les douleurs, sur toutes les coupures, sur toutes les plaies que vous avez. pour les combler, les adoucir et les remplir. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans une unité qui est merveilleuse parce qu'elle est apaisante, elle est thérapeutique. Et là, c'est vraiment, vraiment le paradis. On revient au paradis. Mais c'est le, on retrouve sa moitié qu'on avait perdue. C'est pour, d'ailleurs, c'est le langage courant le dit. Et puis alors, évidemment, ensuite, on reprend toujours la même histoire. C'est-à-dire que les deux se trouvent confrontés à des conflits. Et la raison pour laquelle je parle de rivalité mimétique ou de désir mimétique, sans nécessairement faire référence à la sexualité, c'est que le désir le plus banal, le plus général, c'est le désir de pouvoir. C'est la rivalité pour le pouvoir, même au sein d'un couple. Mmh. Mais le pouvoir pour des riens. Le pouvoir pour des riens, c'est-à-dire...
C'est de là souvent que naissent les conflits.
Mais évidemment, évidemment. Mmh. Parce que savoir, mais qui a le dessus ? Qui prend la décision ? Et ça entraîne des conflits infinis.
Mmh. Alors, il y a quand même une longue liste d'affections psychiques, vous estimez pouvoir être justement traité en quelque sorte par ces stratégies de la rivalité mimétique, enfin, ou de la théorie de la rivalité mimétique, hystérie, phobie, angoisse, passion destructrice, ça évidemment on comprend bien, jalousie obsessionnelle aussi, anorexie. Alors l'anorexie, vous prenez l'exemple effectivement de toutes ces jeunes filles qui rêvent de ressembler à des mannequins qui sont pour elles des modèles inaccessibles.
Des modèles inaccessibles. Et ce que j'en retire comme enseignement, dans un premier temps, c'est qu'en fait, le désir, là, voyez-vous, pervertit, subvertit et supprime même le besoin. C'est quand même extraordinaire de voir que le désir mimétique de ressembler à tel modèle supprime l'envie de manger, les amène à mourir de faim. C'est quand même fabuleux. Et c'est un exemple clair, précis, évident, quotidien. Le désir arrive littéralement, mimétiquement, à supprimer le besoin ou à le pervertir ou à le subvertir, comme c'est le cas dans le masochisme, le sadisme, etc. Ou le messalinisme, le donjuanisme, etc. Et alors, je pense que j'essaierai un jour de faire peut-être un autre développement, un autre ouvrage, où je montrerai vraiment quelles sont les maladies du désir. Et les maladies du désir sont toujours, d'une certaine manière, les maladies de ce rapport rival. Parce que ce rapport rival... dans le développement qui va, dans la façon dont il va être repris, géré par les protagonistes, va générer, en quelque sorte, telle ou telle configuration clinique, tel ou tel tableau clinique. Mmh. Et finalement, tous ces tableaux cliniques peuvent se ramener toujours à des mécanismes, élémentaires.
Oui.
Et je crois que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui va permettre, probablement, de faire rentrer la psychologie, la psychopathologie dans l'espace scientifique.
Oui,
et ils y sont d'ailleurs déjà.
Eh oui, puisque vous rappelez cette découverte récente de ce qui vient en quelque sorte confirmer cette théorie de la rivalité mimétique. Jean-Michel Gourlian, vous rappelez donc cette découverte extraordinaire
des
neurones miroirs.
Et je crois que c'est la première fois, sincèrement, dans l'histoire des sciences.
Bon, il faut expliquer, hein.
Oui, alors je vais vous l'expliquer dans une seconde.
Oui.
C'est la première fois dans l'histoire des sciences qu'une théorie en sciences humaines se trouve du vivant même de son auteur. Confirmé par les neurosciences. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait que on a découvert il y a à peine 10 ans, donc c'est extrêmement récent, et on commence seulement à le publiciser.
À l'Institut des neurosciences de l'Université de Parme.
De Parme, en Italie. C'est Rizzolatti, Gallese et Fogassi qui ont découvert cela, par pur hasard. À savoir qu'un chimpanzé, en ce qui les concernait au départ, mais maintenant on sait que les hommes aussi...
Les petits-enfants notamment ?
Et les petits-enfants, les hommes, les femmes, tout le monde. Lorsque vous me voyez en ce moment même prendre le verre d'eau et le porter à mes lèvres, évidemment, si on enregistre mon cerveau à moi qui fait ce mouvement au PET scan, le PET scan étant cette machine qui permet justement de voir littéralement la pensée en marquant radioactivement l'oxygène, car évidemment les cellules du cerveau qui travaillent...
Ça se passe dans les aires frontales motrices.
Voilà. Et dans les aires frontales motrices, pourquoi ? Parce que je fais un mouvement moteur. Et... évidemment, la consommation d'oxygène est immédiatement repérée, puisque l'oxygène est marqué radioactivement, la consommation d'oxygène est immédiatement repérée par la machine, qui voit exactement l'endroit qui s'allume, pour faire ce geste et le porter à mes lèvres. Eh bien, tenez-vous bien, Jacques Munier, au moment où vous me regardez faire cela, dans votre cerveau, par le simple fait que vous me voyez faire ce mouvement, la même zone, la frontale ascendante, s'allume de la même façon. C'est-à-dire que premièrement, ça veut dire que vous comprenez ce que je fais. à savoir que je suis un autre être humain qui a soif. Deuxièmement, vous vous apprêtez à faire la même chose, et vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas de verre d'eau sous la main, mais si vous en aviez un, vous le feriez probablement. Et ceci nous montre à quel point c'est l'intention qui est décryptée et reproduite par le cerveau en miroir, c'est pour ça qu'on appelle ça les neurones miroirs, et ces neurones miroirs, en quelque sorte, sont véritablement la preuve sur l'écran du fait que le désir est véritablement mimétique, puisque vous ne pouvez pas faire autrement que de copier ce que je suis en train de faire.
En même temps, c'est une forme de reconnaissance et d'aptitude aussi.
Absolument, c'est une forme de reconnaissance, de c'est une forme d'empathie,
oui,
et c'est une forme d'explication, de compréhension du fait que l'humanité constitue un groupe qui se reconnaît mutuellement,
oui,
et qui donc rentre dans une espèce de rapport, généralement, pour devenir humain, il faut rentrer en rapport avec les autres. Car nous sommes, chacun d'entre nous, est pétri d'altérité. Et il y en a un exemple clinique patent, c'est qu'on a découvert encore plus récemment, il y a 2-3 ans, que les enfants autistes, pour lesquels évidemment on avait chargé la mère pendant des décennies de tous les péchés du monde en disant qu'elle ne s'en occupait pas suffisamment bien, les enfants autistes, tenez-vous bien, sont dépourvus dans une large mesure de neurones miroirs. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à entrer dans le rapport humain, dans la relation, et par conséquent ils n'arrivent pas à entrer à accéder à l'humanité ou à l'hominité. Je ne sais pas comment il faudrait dire. Et à ce moment-là, ils restent isolés, en retrait, et on a beaucoup de mal à les faire réagir. Et les schizophrènes, semble-t-il, les travaux sont en cours, suivant le degré d'intensité de leur maladie, ont des neurones miroirs plus ou moins déficients, plus ou moins absents. C'est quand même extraordinaire. Cette découverte est véritablement révolutionnaire.
Voilà, alors justement, le bon exemple, je crois, c'est le sourire, par exemple.
Absolument.
Le sourire appelle le sourire.
Appelle le sourire, le bâillement. Ouais. Appelle le
pareil.
Bâillement. Et de la même manière, les publicitaires ont gagné des milliards. Et dès que les gens gagnent beaucoup d'argent, c'est que ça recouvre une réalité psychologique réelle, simplement en utilisant
cette aptitude, la
psychologie mimétique,
ouais,
la suggestion, qu'on a appelée pendant des décennies la suggestion. Regardez tous les panneaux. Aucun panneau publicitaire ne va vous vanter la technologie qui existe dans une Rolex. Mais on va vous montrer James Bond portant une Rolex ou une Omega, et à ce moment-là, vous allez l'acheter parce que c'est James Bond.
Voilà. Alors, il y a une pathologie, évidemment, de cette aptitude bien normale et naturelle et utile, notamment pour l'apprentissage,
pour la croissance, absolument,
etc.,
l'acquisition du langage,
la vie en société, etc. C'est, vous dites que, malgré tout, il y a une configuration mimétique des névroses et des psychoses. Jean-Michel Hougourlian.
En deux mots, le point commun de nous tous, qui nous permet d'exister en tant que moi, d'individualiser notre moi, c'est cette revendication, cette affirmation que nous avons, que notre désir est la priorité et la propriété de notre propre désir, d'une part, et d'autre part, que ce désir appartient à moi. Eh bien, suivant la façon dont cette revendication va être gérée dans la vie, elle peut être gérée sur le mode normal par simplement l'oubli. On oublie, tout simplement, qu'on a copié sur quelqu'un d'autre et on vit heureux. Ou bien sur le mode névrotique, avec une ambivalence dans la reconnaissance de l'altérité de mon désir, ou bien sur le mode psychotique, par une négation totale et une altérisation de mes perceptions, c'est-à-dire on me parle, on me suit, on me parle dans la tête, etc.
En tout cas, Jean-Michel Hougourlian, je renvoie les auditeurs à votre livre « Jeunesse du désir » pour se persuader du fait qu'un individu n'existe pas sans l'autre. Absolument. C'est très clair. Voilà un ouvrage donc publié chez Carnet Nord, « Jeunesse du désir ». Jean-Michel Hougourlian, merci.